Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Frédéric Vial, coordinateur de la commission OMC-AGCS à Attac.
Eh bien, Frédéric Vial nous fait le plaisir de revenir pour la deuxième semaine. Il est bien courageux. Et la semaine dernière, vous nous aviez parlé de la réunion ministérielle de l'OMC qui s'était déroulée à Hong Kong en décembre dernier. Vous nous aviez parlé d'offres, de demandes, et avec ma célèbre comprenette un peu lente, je n'ai pas toujours très bien compris exactement ce que c'était que des demandes. Vous aviez dit qu'il y en avait qui avaient été faites en février dernier, donc tout récemment, et que les USA et l'Union européenne avaient une grande part dans ces demandes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en développant plus ?
Oui, alors dans le mécanisme de libéralisation des services, puisque il s'agit surtout en ce moment des négociations sur les services, c'est-à-dire tout ce qui touche l'éducation, la santé, la culture, les services aux entreprises, le conseil, etc., etc., ce qui concerne 70% du PIB, il y a actuellement une série de demandes qui est faite par de demandes d'ouverture de secteurs, c'est-à-dire que certains pays demandent à d'autres d'ouvrir leur secteur de service. Et pour accélérer le mouvement, parce que les pays considéraient que c'était un peu lent, les pays sous la pression des grands lobbies internationaux, et on pourra en parler un tout petit peu, c'est intéressant ça, on décide de créer des groupes de pays qui proposent des listes d'ouverture, c'est-à-dire des demandes. Et là, il y a un certain nombre de demandes qui sont arrivées en matière d'éducation, en matière de services aux entreprises, en matière de services financiers. Et ces demandes ont été faites par une douzaine de groupes de travail qui sont présidés par des pays « amis » entre guillemets, « amis de la libéralisation ». Alors tout ça a l'air un peu anodin, on a l'impression que ce sont des groupes de travail, de gens qui se réunissent autour d'une table et qui font des listes comme ça, sans que ça aille très loin. Pas du tout, c'est tout à fait important parce que ce sont des demandes qui vont très loin. Et il faut bien savoir qu'à partir du moment où des pays formulent des demandes, ils sont prêts à accepter la contrepartie, c'est-à-dire la libéralisation de niveau équivalent chez eux, puisque c'est un principe de donnant-donnant. Donc, ces listes de demandes qui sont des demandes de niveau élevé, qui sont de niveau important, ambitieux, comme on dit dans le jargon, ça veut dire que les libéralisations et les ouvertures des pays qui formulent ces demandes sont importantes. Et il faut bien voir là-dedans que, comme d'habitude à l'OMC, l'Union européenne et les États-Unis, et l'Union européenne en premier lieu, ont formulé dans tous les secteurs concernés dans cette première phase, ont formulé des demandes d'un niveau très élevé.
Il y a un petit truc que j'arrive pas bien à cerner. C'est vous parlez de finalement de tractations qui ont lieu au sein de l'OMC dans le cadre de l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services. Oui. Et à chaque fois vous utilisez le mot libéralisation. C'est vraiment l'objectif final de l'AGCS. Pourquoi à chaque fois vouloir libéraliser plus? C'est ça qu'ils veulent atteindre?
Oui, c'est le principe. C'est dans les statuts de l'Organisation mondiale du commerce, arriver au plus haut niveau de libéralisation possible de tous les secteurs. C'est-à-dire, libéralisation, ça veut dire une ouverture très forte. Ça veut dire, en fait, que les capitaux pourront s'investir là où ils le désirent aux conditions qui leur sont le plus favorables. Ça veut dire aussi une mise en concurrence des salariés entre eux à travers, dans le jargon, ce qu'on appelle le mode 4 de l'accord général du commerce des services. Et là-dessus, il y a un certain nombre de formulations qui ont été faites, de demandes qui ont été faites. Ça veut dire aussi, cette libéralisation, une ouverture à tous les prestataires de services du monde entier. Tout cela, ça a pour conséquence de rendre impossible pratiquement l'existence d'un secteur de services publics qui soit à peu près cohérent. Ça rend aussi à peu près impossible toute intervention de la collectivité publique dans l'économie, puisque en fait, tout les secteurs d'activité, en l'occurrence là c'est les secteurs de services dont on parle depuis tout à l'heure, sont soumis à une logique marchande. En fait, la libéralisation aboutit nécessairement à la, du fait de la mise en place des règles du marché, à la privatisation, aboutit nécessairement au fait que les services publics sont réduits à la portion congrue. Voilà ce qui est recherché. Alors pourquoi c'est recherché? Pourquoi cette demande frénétique d'ouverture, de libéralisation? Ben parce qu'en fait, les détenteurs de capitaux, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement des capitaux entre les mains, mais des capitaux importants, ont besoin de trouver des marchés où investir. Ils ont besoin de déboucher. Un capital qui ne rapporte rien, ça n'a pas de valeur. Il faut qu'il y ait des marchés. Or, il se trouve que tout un tas d'activités, y compris dans nos pays, échappent aux règles du marché. La santé échappe largement encore aujourd'hui aux règles du marché. L'éducation échappe encore largement, une partie de la culture, etc., etc. Tout ça fait que il y a, dans cette recherche de débouchés, la volonté de la part de l'OMC en façade et en réalité derrière des lobbies qui œuvrent pour obtenir ces ouvertures, il y a une recherche de nouveaux débouchés et donc la volonté de faire sauter un certain nombre de verrous juridiques, institutionnels, qui passent à travers les négociations qu'on connaît actuellement et négociations qui donc sont en phase d'accélération très forte. C'est à peu près tous les jours ou tous les trois jours qu'on a des nouvelles qui vont dans le sens de ce que je vous dis à l'instant.
Des sous et des hommes, et on est en compagnie de Frédéric Vial qui s'occupe des problèmes d'OMC et d'AGCS à Attaque. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'une accélération du processus qui tend à la libéralisation, j'ai du mal, du commerce des services. Mais c'est ça que j'arrive pas très 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 bien à comprendre, finalement, même si j'ai l'air de rien comprendre du tout à ces histoires d'OMC et d'AGCS. Ça fait quand même un certain bout de temps qu'on en parle. Et finalement, on me montre cela comme un danger. On crie au loup. Puis finalement, là, on me dit accélération. Si je lis certains papiers, je me dis, mais finalement, pas grand-chose a été fait jusqu'à présent. Alors,
où on en est?
Oui.
En fait, c'est bien le problème qui a été constaté par la plupart de ceux qui font fonctionner l'OMC, et notamment des grands États. C'est que, et au-delà des grands États, encore une fois, les lobbies qu'il y a derrière, notamment le lobby européen des services, ça s'appelle le Forum européen des services, très exactement, mais vous avez également la coalition américaine des entreprises de services, qui sont des très grands lobbies qui regroupent à eux deux environ 200 entreprises de taille mondiale concernant les services. C'est que dans le cadre de l'OMC, depuis 10 ans que l'OMC avance, ça patine. Objectivement, ça va pas bien vite. Le temps de mettre tout le monde d'accord, c'est très compliqué. Parce que il y a des États qui ont un niveau de développement très élevé et d'autres qui ont un niveau de développement très faible, qui de surcroît sont endettés, qui réclament des mesures pour le développement, etc., etc. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'OMC a tellement été critiquée. Elle a tellement été critiquée et par l'extérieur, c'est-à-dire les populations, les altermondialistes, les paysans qui se prennent les choses en pleine tête, et mais également de l'intérieur, ça ne va pas assez vite pour les entreprises transnationales, que l'OMC, là, est un peu en train de jouer une espèce de va-tout politique. Va-t-elle parvenir avant 2007, qui est véritablement la date à laquelle le président des États-Unis, perd la possibilité de négocier des traités internationaux? Est-ce que en 2007, on va arriver, oui ou non, à faire quelque chose concernant les services? Alors, comme ce gros machin à 150, ça a du mal à avancer, l'idée, c'est de fractionner les problèmes, c'est-à-dire de faire un certain nombre de groupes de pays qui discutent entre gens de bonne compagnie sur des questions qui importent. Tous les petits États, les États qui demandent des mesures pour le développement, des traitements particuliers, etc., ne sont pas concernés par ce genre de choses et n'intéressent pas les grandes entreprises. Ils ne les intéressent pas, ils ont des marchés trop étroits, pas assez importants. Regardez récemment encore, Bouygues, Vivendi se retirent d'un certain nombre de pays parce que c'est pas des marchés qui les intéressent fondamentalement. Alors, on se met entre pays une trentaine qui sont soit des pays riches, soit des pays émergents dont les marchés intéressent les pays riches. La Chine, la Thaïlande, le Brésil, l'Inde, ce sont des marchés intéressants. Et là, on discute entre gens sérieux de bonne compagnie. Et après, le reste, eh bien, les autres pays, ça n'a pas tellement d'importance. Par ce biais-là, et si on ajoute à cela la dynamique interne de l'accord lui-même, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où on a ouvert à un opérateur de service, on ouvre à tous les autres. C'est ce que dans le jargon on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Eh bien, on aboutit là effectivement à un danger tout à fait important, c'est-à-dire non seulement recrédibiliser l'OMC en ce qu'elle risque d'aboutir effectivement en 2007, mais en plus effectivement donner un certain nombre de résultats qui jusque-là n'ont pas été atteints. Donc les enjeux sont véritablement de taille, et ils le sont d'autant plus que ce sont des secteurs, des choses qui sont extrêmement techniques, compliquées, et donc c'est difficile de surcroît de mobiliser sur des choses comme celle-là, mais on pourra peut-être y revenir en fin d'émission si on a le temps.
Liam, tout à l'heure vous disiez que que les États-Unis et que l'Europe visaient à une accélération donc justement de la libéralisation, mais qui pouvait tendre à la disparition des services publics, que la logique était la marchandisation de secteurs qui n'étaient pas jusqu'à présent de l'ordre de la marchandise. Par exemple, chez nous, on pourrait penser aux hôpitaux, à l'école et ce genre de choses. Ce que je n'arrive pas très clairement à comprendre, c'est pourquoi les gouvernements européens en particulier, qui, je l'espère en tous les cas, sont attachés aux services publics, pourquoi justement ils veulent se lancer dans ce genre de négociations qui à terme peuvent amener ce genre de conséquences.
Je ne suis pas très certain que la Commission européenne et les institutions européennes soient très attachées aux services publics. Il y a beaucoup de signes qui montrent le contraire, aussi bien à l'intérieur des politiques que mène l'Union européenne que vis-à-vis des offres qu'elle fait de l'OMC. Lorsque, par exemple, l'Union européenne, là, très récemment, le 28 février, fait un certain nombre de demandes, et qu'elle dit que, de toute façon, elle ne fait pas de demandes sur l'éducation, la santé, etc. Ça, c'est son discours officiel. Quand on gratte et quand on regarde un petit peu le détail, eh bien, on s'aperçoit que sur un certain nombre de points, comme par exemple les fournisseurs contractuels de services qui concernent le dentaire, qui concernent le vétérinaire, qui concernent la santé, eh bien, il y a des demandes qui sont faites. Alors, dans ces conditions-là, est-ce que l'Union européenne est en train de sauvegarder les services publics ? Non. Je crois que ce qui intéresse l'Union européenne, ça correspond à cette espèce de pensée générale, cette espèce de pensée unique qui traîne depuis maintenant 20 ans un peu partout dans toutes les institutions. C'est cette idée que seul le marché et le développement à l'exportation est susceptible de favoriser un développement supplémentaire de pays comme le nôtre. On parle de cette idée-là. Sauf que c'est faux. Sauf que ça ne marche pas. Tout simplement parce que les entreprises qui se développent à l'étranger, c'est bien gentil, mais on peut douter du fait que ce soit toujours au bénéfice des populations européennes, puisqu'il est question des populations européennes dans votre question. Et puis aussi, on peut se poser la question de savoir si, au-delà de la seule question de l'efficacité économique concernant les services publics, il n'y a pas aussi à prendre en compte autre chose qui est tout simplement la démocratie. C'est-à-dire que les services publics, ce n'est pas seulement une fourniture de services. Non, les services publics, c'est aussi la mise en œuvre concrète et effective des principes démocratiques. Le droit d'accès à la santé, à l'éducation, par exemple, pour prendre des choses qui touchent beaucoup les gens, mais il y en a d'autres, ces droits-là relèvent de la démocratie. Or, l'idée de l'Union européenne, c'est que tout ça, c'est bien gentil, mais ce qui est important, c'est de se tailler des parts de marché à l'export. Ça correspond, je crois, à un défaut de vision à long et moyen terme, dont j'espère qu'on n'aura pas trop longtemps à payer les conséquences.
Des sous et des hommes en compagnie de Frédéric Vial qui s'occupe donc des questions d'OMC et d'AGCS à attaque. Et depuis le début, on est en train de parler de libéralisation, en tous les cas souhaitée par l'intermédiaire de l'OMC et de l'AGCS. Et ce que je me pose un peu comme question depuis le départ, c'est oui, mais au bénéfice de qui ? Parce que vous aviez fini tout à l'heure en disant que finalement, ce qui était souhaité, c'était le développement à l'exportation. Moi, je veux bien que, si on va prendre le réseau de l'eau, par exemple, dans un pays tiers, on ne va pas exporter notre eau, donc ce n'est pas directement de l'exportation. Et bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent comme ça pour les services. Je ne vois pas quel est le bénéfice que je peux en tirer, moi. Enfin, nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer, nous, les Français ou les Européens, suivant comment vous voudrez répondre à la question.
Je crois que c'est très important, effectivement, de démystifier tout le discours de la France, l'Union européenne, vous savez, avec des flonflons derrière, qui acquiert des parts de marché qui seraient forcément bénéfiques pour l'ensemble de la population, comme si il y avait un signe d'égalité entre cette opération qui consiste à acquérir des parts de marché à l'extérieur et le bien-être général. Alors, il est vrai, et Gérard Duménil en a parlé dans une émission précédente que vous avez faite avec lui, il est vrai qu'on peut parler, ou en tous les cas, on peut essayer de voir si en économie, il n'y a pas des retombées, c'est-à-dire si une entreprise qui se développe à l'étranger, rapatriant ses bénéfices, crée sur place des emplois, ou en tous les cas, des richesses, et permet une certaine diffusion de cette richesse dans l'économie. Alors, c'est probablement vrai en partie, mais c'est aussi très certainement faux en partie également. Parce que il faut bien voir que les réels bénéficiaires de ces ouvertures à l'exportation, ce sont des entreprises déjà largement installées, je veux dire très fortes, qui ont des capacités en termes de surface et notamment financières à résister au grand vent du large international et qui donc sont des entreprises qui ont un actionnariat qui n'est ni français, ni européen, ni américain, ni rien. Ça n'existe pas, ça. Ce sont des actionnariats tout à fait anonymes. Et les bénéficiaires des retombées, c'est-à-dire ceux qui, parmi les actionnaires, touchent des dividendes, les dépensent là où ils veulent. Mais ça ne fait pas un modèle de développement, et ça ne fait certainement pas un modèle de développement ni pour nos pays, ni pour les pays qui sont visés par ces libéralisations. Et si on essaye d'aller plus loin et de voir ce que réellement recherche l'Union européenne, ça a été dit très très clairement en 2000, lorsque, au moment de fixer ce qu'on a appelé l'agenda de Lisbonne, il s'agit toujours de faire de l'Union européenne la zone la plus compétitive du monde à l'horizon 2010. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la zone la plus compétitive du monde? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il va s'agir de faire baisser le coût du travail. Parce que le coût du capital ne baissera pas. Les actionnaires n'ont pas du tout l'intention de voir baisser leur rémunération. Non, il s'agit de faire baisser, plus exactement, la rémunération du travail. Et on voit à travers, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos des offres de l'Union européenne dans le cadre de l'OMC, on le voit à travers les offres que fait l'Union sur le mode 4. Alors ça relève pas seulement des demandes qui ont été faites le 28 février, mais des offres qui sont antérieures, qui ont été publiées dans un document à diffusion restreinte, où on voit que dans quatre domaines, l'Union européenne est prête à permettre que des personnels soient transférés d'un pays à un autre dans des conditions qui sont certainement pas favorables ni au droit du travail ni à la rémunération de ces personnels. Alors dans un premier temps, ce qui est visé dans la GCS, ça concerne des personnels de haut niveau de formation. Mais c'est toujours la même chose. Dès lors que le coin est mis, dès lors que le pied est passé dans la porte, le reste suit. Pour l'instant, il s'agit seulement de faire des propositions sur des personnels qualifiés. Plus tard, on verra si on va pas pouvoir descendre un tout petit peu et appliquer en quelque sorte une sorte de Bolkestein mondial. C'est là-dessus qu'il faut que nous combattions. C'est là-dessus véritablement parce que, au nom de cette espèce de recherche de marché à l'extérieur, on est en train, en tous les cas l'Union européenne est en train simplement de brader notre système social, en toute simplicité.
Qu'est-ce que peuvent faire les gens? C'était un petit peu ma question. Est-ce qu'on peut écrire à nos députés? Est-ce qu'ils sont concernés par ces...
Ils sont largement concernés. Il y a déjà une campagne qui a commencé depuis fort longtemps, des collectivités qui se sont déclarées hors AGCS. Alors évidemment, en France, en tous les cas, ça a une portée uniquement symbolique, mais également politique et fortement politique. Quand vous avez 20 régions sur 21 ou 22 que compte la France qui se déclarent hors AGCS, quand vous avez 800 collectivités locales qui se déclarent, quand vous avez des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Belges, etc., etc., en nombre qui se déclarent, maintenant des Canadiens qui disent qu'ils ne veulent pas de la GCS, eh bien les gouvernements ont un problème politique. Et là, il s'agit d'accentuer ce problème politique. Et nous avons l'intention de demander à nos militants, mais et tous les citoyens peuvent être associés à ce genre de choses. Il suffit pas seulement d'être militant à TAC, puisque c'est un mouvement très large, d'insister auprès de leurs élus pour qu'ils se manifestent une nouvelle fois auprès des autorités publiques pour dire qu'ils refusent la GCS. Il ne faut jamais oublier que l'OMC, c'est un forum d'État. C'est-à-dire, ce qui s'y décide, c'est ce que veulent les gouvernements, le gouvernement français, le gouvernement espagnol, italien, allemand, etc. Et qu'on vienne pas nous dire que c'est l'Union européenne qui impose ça. Non, l'Union européenne a un mandat pour agir. Elle n'agit que par mandat. Nous avons donc la possibilité d'agir sur nos gouvernements, nous.
Et oui, donc c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Frédéric Vial, que je remercie d'être venu pour une deuxième fois. Et je ne peux que vous inviter donc à aller sur le site d'ATTAC, www.attac.org, dans lequel vous pourrez trouver donc un certain nombre de documents concernant l'OMC et la GCS. Vous pouvez aussi aller sur le site de Raoul-Marc Génard, www.urfig.org, je crois aussi. Oui. Autrement, je vous rappelle qu'il y a à peu près 7 ou 8 émissions qui concernent l'OMC, la GCS et tous les problèmes afférents sur le site de Dessous, www.dessousetdeshommes.org. Et la semaine prochaine, je pense que je vais me reposer un petit peu et que je vais vous proposer une rediffusion faite d'une émission que j'avais faite il y a longtemps avec Bruno Jetin, qui est professeur d'économie et qui était un pédagogue assez remarquable. Ça concerne là aussi les institutions internationales. Voilà, à la semaine prochaine.